Alors, bienvenue. On est dans le cours « La mort dans la cité ». On achève une première section qui va se terminer en fait dans deux semaines. Soit dit en passant, avant que j'oublie, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours biblique de 9 à 10. C'est la matinée de Pâques et puis on a une matinée spéciale avec des baptêmes, tout ça. Donc, il n'y a pas de cours de 9 à 10, d'accord? On se retrouve dans deux semaines. Ça va? Donc, on est rendu à la leçon 8, « La justice de Dieu ». Je m'appelle Yannick Étier, pour ceux qui écoutent l'enregistrement. On va aller ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, on veut te remercier pour ce printemps, Seigneur, tardif qui enfin commence à s'installer. Merci, Père, pour ce chant d'oiseau que j'ai entendu à 6 heures du matin. C'était mon premier chant d'oiseau du printemps. Merci, Père, pour ce jour. Cette journée t'appartient, elle est à toi. On veut te servir, on veut te glorifier, on veut apprendre à prendre plaisir en toi, Seigneur, dans ta volonté, à marcher dans tes voies. Seigneur, un sujet tellement important ce matin, alors qu'on parle de la justice de Dieu, de ta justice qui est bien différente de la justice des hommes parce que fondamentalement, nous sommes tous injustes, Seigneur, et on a de la difficulté à saisir ta justice. On te demande de nous bénir dans cette discussion ce matin, de nous équiper afin qu'on puisse présenter ton évangile à nos proches, à ceux que nous aimons, à cette belle ville de Longueuil, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Première question au haut de la page, sur quelle base Dieu va-t-il juger l'homme sans la Bible? Je pense que c'est une des plus grandes difficultés qu'on a dans la présentation de l'Évangile. L'idée que Dieu est juge, que Dieu a le droit de juger, que Dieu est justifié de juger, que Dieu va juger tous les hommes avec une conséquence éternelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus grande difficulté que ça? Pensez-vous à quelque chose d'autre qui pose un véritable problème, disons aussi grand que celui-là lorsqu'on veut annoncer l'Évangile? Sam? La souffrance dans le monde, définitivement. Pourquoi est-ce que, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet ça? OK? Oui, définitivement. François? Oui. Bien, ça, c'est peut-être une manière de prendre la question de la justice de Dieu de manière plus globale. Le fait qu'on doit subordonner, on doit obéir, on doit soumettre à Dieu. Dans le fond, la justice de Dieu, le fait qu'on va être jugé, ça relève tout de cette question-là d'ensemble. C'est qu'il y a un être qui nous est supérieur et qu'on est inférieur à cet être-là puis qu'on doit vivre heureusement, joyeusement en acceptant cet état-là. Quelque chose d'autre que vous pensez? C'est définitivement, en tout cas, une des grandes difficultés. Si vous deviez tout de suite là, présenter cette notion-là de justice de Dieu à quelqu'un dans une conversation. En fait, je vais vous poser une question avant. Comment on peut présenter l'Évangile sans parler de la justice de Dieu? Avez-vous un moyen pour le faire? Oui, Gérard. Tu réponds à ma première question. Comment tu vas présenter la justice aux hommes? Tu vas aller avec l'injustice qu'il y a chez les êtres humains puis leur désir à eux-mêmes de justice. Ce serait ça? OK. Intéressant. Oui? Je vais répéter votre question. Allez-y. Oh, c'est une bonne question. Hitler va se faire. OK. Oui. Je vais répondre à votre question, mais je vais le faire brièvement parce qu'on est juste un petit peu à côté, mais je vais répondre. Lorsque les gens vont faire des comparaisons, puis vont parler des gens comme Hitler, admettons, puis vont dire « lui va souffrir beaucoup plus », il n'y a pas d'évidence claire de ça dans les Écritures, à ma connaissance. J'essaie de penser à aucun passage. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont être jugés plus sévèrement, dans le sens que tu vas être jugé pour tes œuvres. Mais après ça, à partir du moment où... Au-delà de toute notion de souffrance physique en laquelle je crois, là, je pense que ça va être comme ça, mais au-delà de ça, fondamentalement, la plus grande souffrance, ça va être d'être séparé de la source réelle de tout bonheur qui est Dieu pour l'éternité. Fait qu'à partir du moment où tu es là, tout le monde est à peu près dans le même bateau. Puis en fait, quand les gens font ça, ce qui est plus intéressant, je pense, de faire lorsque les gens vont dire, admettons, « Ouais, mais Hitler va être jugé plus sévèrement, il va souffrir plus, c'est certain, tout ça. » Je pense que ce que les gens sont en train de dire en faisant ça, c'est qu'ils sont en train d'illustrer le fait que selon eux, tu peux être plus ou moins saint. Puis, donc, ce qui m'intéresse dans ce qu'ils disent là, ce n'est pas tellement ce qu'ils disent sur Hitler que ce qu'ils disent sur eux-mêmes. Fait que, OK, si eux autres ne sont pas dans le camp d'Hitler, ils sont où sur l'échelle de la sainteté, là? Ils sont à combien de marches de la porte du ciel pour réussir à rentrer au ciel? Parce que dans le fond, c'est ça qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il n'y a pas saint et impur, il y a un peu moins. C'est vrai que Dieu va juger chacune de nos actions, mais en même temps, tu te classes ou tu ne te classes pas. Puis ça nous parle plus d'eux, je crois que, d'ailleurs, quand les gens posent des questions, ils parlent beaucoup d'eux, là. Mais fait que je prendrais ça, cette question-là, puis je poserais la question. Ça veut dire que toi, tu te situes où dans cette échelle-là, si pour toi, il y a une échelle? T'es-tu sûr d'aller au ciel? T'en as-tu comme assez pour rentrer au ciel? À quel moment t'en as assez pour rentrer au ciel? En tout cas, fait que ce serait peut-être là que j'irais avec eux. Je pense, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas aller en enfer, mais pas trop souffrir? Oui. Ben, il y en a, c'est ça. Les gens nous répondent des fois des choses plus ou moins réfléchies. Ils vont nous dire, ben écoute, déjà, je pense qu'ici, c'est l'enfer, puis on souffre déjà assez. Fait qu'ils se disent, dans le pire des cas, ça va continuer de même. T'sais? Ah non, ici, c'est le paradis 100 fois à côté de l'autre bord. Parce que tout le monde ici est sous la grâce commune. Fait que Dieu fait lever le soleil sur les bons et les méchants. L'autre bord, il ne fait pas lever le soleil sur les méchants. C'est fini. Fait que non. Je ne crois pas qu'on peut prêcher véritablement l'Évangile sans se rendre à la justice de Dieu et au jugement de Dieu, d'accord? Ça ne veut pas dire que chaque fois que je parle de l'Évangile à quelqu'un, je veux aller là. Jésus, dans les Évangiles, a exceptionnellement prêché l'Évangile au complet. Est-ce que vous me suivez? C'est très rare dans les Évangiles que Jésus s'adresse à une foule puis qu'il nous donne à peu près tout l'Évangile. Il est toujours sur certaines portions, certains aspects, certains angles de l'Évangile. Mais un exposé systématique, comme on le trouve, admettons, dans l'Épître aux Romains, tu n'en as pas avec Jésus. D'accord? Donc, lorsque je parle de l'Évangile avec quelqu'un, je n'ai pas nécessairement l'agenda de présenter l'Évangile au complet. D'accord? Ça va dépendre. Ça va dépendre où est-ce qu'on s'en va, où s'en va la conversation, est-ce qu'on peut aller là. Mais présenter la justice de Dieu est essentiel à la compréhension de l'Évangile. Présenter le jugement de Dieu est essentiel à la compréhension de l'Évangile. Donc, tôt ou tard, il faut que quelqu'un qui me dit qu'il croit en Jésus puisse m'exprimer c'est quoi la notion de la justice de Dieu. Et c'est vraiment quand même une grande difficulté à notre époque, à nous, de pouvoir présenter ça aux gens parce que les gens vont prendre des choses comme ça. Ils estiment que Dieu est injuste. Parce qu'il y a de la souffrance dans le monde, ce que Samuel soulevait. T'sais. Donc, Dieu est injuste. Écoute, viens pas m'écœurer avec ton Dieu qui va nous juger. Regarde comment il run le monde, puis tu sais, on s'en reparlera. Dans le fond, c'est ça. Là. Et je trouve que M. Schaeffer fait un excellent travail. Très, très bon travail. Il approche très bien ça. Peut-il le faire en toute légitimité? Dieu peut-il juger les hommes, exercer la justice en toute légitimité? Parce que toute la question qui est derrière ça, c'est oui, mais est-ce que les hommes savent vraiment? Est-ce que les gens savent vraiment? Celui qui lit la Bible a la connaissance, Dieu va donc pouvoir le juger. D'accord? Mais celui qui ne connaît pas, l'homme sans la Bible, comment, sur quelle base est-ce que Dieu va le juger? Bon, Paul dans Romains 1 nous dit que chaque être humain, c'est en lui-même que Dieu existe. On a la connaissance de Dieu à l'intérieur de nous. Oui, je suis d'accord avec Paul, mais est-ce que c'est juste sur cette base-là? Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est vraiment clair? Si Dieu décide de le faire, il va être juste de le faire. Mais disons que M. Schaeffer va un petit peu plus loin dans Romains, puis c'est intéressant. M. Schaeffer va à présent nous conduire dans une réflexion riche qui nous permet de discuter avec l'homme sans la Bible. De la question du jugement divin de manière intellectuellement satisfaisante, je le crois, et certainement intéressante. Et l'idée, tout simplement, c'est que la mesure que Dieu nous annonce dans la Bible, c'est qu'il va nous juger, pas uniquement, mais inclusivement, sur la base de nos propres jugements. D'accord? Dieu va se servir de la mesure avec laquelle on a jugé les gens pour nous juger. Et sur cette base-là, j'ai matière pour discuter avec n'importe qui n'a pas la Bible. Regardez avec moi Romains 1, 32 jusqu'à 2, 3, je relis le passage. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » En partant de ce passage-là, Schaeffer nous propose d'imaginer que Dieu nous aurait mis, on va mettre ça un peu plus moderne qu'à l'époque de son livre, un petit implant qui enregistre avec un détecteur de jugement, qui enregistre chacune de nos paroles et chacune de nos pensées où on juge des gens au quotidien. Quelqu'un qui nous coupe sur la route, quelqu'un qui, on lit les journaux, puis on apprend qu'il y a eu une fraude, il y a eu un abus, il y a eu un mensonge, il y a eu de la maltraitance, il y a un collègue de bureau qui trompe sa femme, il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur une belle fille qui passe, puis là tu dis, ça n'a pas d'allure. Donc, M. Schaeffer nous propose simplement l'idée de dire, si on avait un enregistreur personnel, divin, d'implanter à quelque part, qui nous enregistre et qui passe son enregistrement à chaque fois qu'on pose un jugement, tous les êtres humains, sur quelqu'un autour de nous. Et puis, il imagine, il dit, admettons maintenant que lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, Dieu commence par faire ceci. Il fait simplement activer cet enregistrement-là, où toutes les fois, dans le cours de notre vie, on a jugé quelqu'un. Et puis, tout simplement, il nous dit, « OK, est-ce que tu es quelqu'un d'intègre? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as honoré tous ces jugements que toi, tu as prononcés? As-tu été à la hauteur de ta propre morale? » Intéressant. C'est ce que la Bible nous dit que Dieu va faire, littéralement. Entre autres. C'est pas juste ça. Est-ce que ça tient, ça, si vous discutez avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression, non, je suis désolé, je peux pas faire ce raisonnement-là, parce que les gens vont me dire, non, moi, je pose pas de jugement. Est-ce que vous êtes en mesure de démontrer à tout le monde que vous connaissez? Fait que si vous trouvez quelqu'un là, dans votre tête qui vous dites, non, je peux pas, est-ce que vous êtes en mesure de démontrer à tout le monde que vous connaissez qu'il pose des jugements moraux régulièrement? À différents niveaux, chacun avec sa morale. Oui. C'est ça. Est-ce que tu as connu l'injustice? Ça veut dire que tu as jugé qu'il y avait quelque chose d'injuste, définitivement. Est-ce que vous pensez à la personne là, qui est la plus opposée que vous pouvez imaginer à l'Évangile? Est-ce que cette personne-là, vous lui connaissez des jugements moraux qu'elle pose? Sur la religion, par exemple. Oui. OK, donc si Dieu condamne les hommes, il est vraiment méchant. Est-ce que lui, cette personne-là, condamne des gens des fois? OK, donc elle est méchante. C'est ça, OK, juge les autres, donc il est méchant. Fait que, OK, j'ai une réplique du dîner de con. Il est méchant, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, je m'excuse, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est super opposé à l'Évangile? Et qui ne pose jamais de jugement moraux sur rien. Allez-y, donnez-nous un exemple difficile. Il n'y en a pas.
Généralement, ce qui arrive, c'est qu'on commence à juger tout le monde. Là, dans notre conversation, si on est honnête, on dit, ah, excuse-moi,
Oui. Oui. C'est ça. Ça, c'est l'attitude que l'Évangile va t'enseigner. Définitivement. Définitivement. Alors, ce que M. Schaeffer, dans le fond, nous propose comme raisonnement, c'est tout simplement celui-là, c'est de dire, est-ce que ça se pourrait que Dieu nous dise qu'il va juger les hommes sur la base de ce que les hommes eux-mêmes ont posé comme jugement? Je m'en vais au haut de la page 2. Bien, nous dirait simplement Dieu nous dirait simplement, alors, ce sont tes propres paroles. Ce sont là tes propres paroles. As-tu respecté toi-même les critères dont tu te servais? Bien que notre moralité personnelle soit certainement en deçà de la moralité de Dieu, il n'en demeure pas moins que cette mesure sera amplement suffisante pour démontrer notre indéniable culpabilité. Donc, le point de Schaeffer, c'est qu'il dit, vouloir partir avec la notion de la sainteté de Dieu, c'est partir avec un concept qui est totalement étranger aux gens. D'accord? Leur vision de Dieu, c'est peut-être qu'il est un être injuste parce qu'il permet la souffrance dans le monde. Fait que, quand tu parles de ce Dieu-là qui semble très, très loin et distant, puis tu dis, oui, mais c'est un être parfait, la perfection, il est juste, il est saint, il est pur. Tu es tout dans un langage, tu fais référence à des concepts qui sont totalement étrangers à eux. C'est très, très loin d'eux. Ils ne sont même pas capables de trouver une autorité sur la terre de qui dirait, cette personne-là est juste. Non, on vit à une époque où on est profondément cynique. Il y en a qui diraient lucide, moi je vais dire cynique. Et donc, on ne croit plus du tout dans le système judiciaire. On ne croit pas dans la rectitude de tout ça, d'aucune manière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, oublions ça. Partons des gens eux-mêmes. Partons de leur propre attitude. Puis ça revient un petit peu. Des fois, vous m'entendez dire, je vais le dire dans des messages, je vais dire, nous-mêmes, lorsqu'on écoute les nouvelles, tout ça, on est scandalisé par des choses. Alors, imaginez si moi, qui suis hypocrite, menteur, égoïste, orgueilleux, de toutes sortes de manières petites, grandes, différents moments, si moi je suis scandalisé par quelque chose puis que je trouve ça affreux, imaginez Dieu qui est sans défaut, qui est parfait, qui est pur, qui est saint. Voyez-vous, c'est le même raisonnement. Mais là, on part encore plus près d'eux, puis moi j'aime ce qu'il fait, c'est qu'il dit « OK ». Si Dieu prenait simplement tous tes jugements pour déterminer si tu es un être juste ou injuste. S'il prenait juste ton niveau à toi de moralité, puis il disait, OK, on va t'évaluer à la lumière de ta propre moralité. Fait que l'avantage de ça, c'est que tu peux partir absolument avec n'importe qui. Là. Vous comprenez, la personne, elle peut être à 1 milliard de kilomètres de l'Évangile. Elle pose des jugements et M. Schaeffer dit, j'ai jamais rencontré personne qui a osé me dire qu'il était un être totalement intègre. Qui respectait parfaitement ses propres standards moraux en tout temps. Je n'ai jamais rencontré ça. Et donc, son point, c'est que c'est ça que les Écritures disent. Fait qu'après, après, je peux aller voir les Écritures. Après, je peux citer les Écritures. Romains 2, 14 à 16. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dans Matthieu 12, 36-37, Jésus dit, « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Dans Luc 12, 2 et 3, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Toutes tes pensées secrètes de jugement contre les hommes vont être placées devant toi comme un jugement sur toi-même. » Enfin, dans Apocalypse 20, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dieu n'aura pas la tâche ardue au jour où nous paraîtrons devant lui pour exposer notre injustice et cela à la seule lumière de notre propre morale personnelle. Et tout indique que nous serons jugés sur la base de notre connaissance de Dieu, de la sainteté, où pour tout homme, sa connaissance suffira à le prouver, à le trouver coupable. D'accord? Je ne suis pas en train de dire, puis Schaeffer n'est pas en train de dire que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, l'homme ne se mesurera pas face à la sainteté de Dieu. Mais déjà sur la base de notre propre injustice, Dieu va pouvoir montrer qu'on est tous des hypocrites, qu'on est tous des gens qui manquent d'intégrité, que nous ne sommes pas intègres. D'accord? Et là, ce qui nous importe, nous, dans la conversation, ce n'est pas l'argument qu'ils vont faire lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, ils vont se taire devant Dieu. On voudrait qu'ils viennent à l'Évangile avant de se présenter devant Dieu. Donc, je veux partir d'un point de repère pour eux. Oui, David. Okay. Je vais juste répéter, là, je vais résumer pour voir si j'ai bien compris ce que tu dis, puis de toute façon, pour que ce soit dans l'enregistrement. Ce que David mentionne, donc, c'est que tu as l'impression dans le texte, dans l'approche de Schaeffer, que on ne va pas présenter la justice de Dieu ou le jugement à la lumière des Écritures, parce qu'il ne faudrait pas juger les hommes. Mais si j'ai bien compris, là, c'est ça que tu me dis. Puis toi, tu dis, non, il faut plutôt que je leur montre qu'il y a une justice qui est supérieure à la leur, qui est celle de Dieu. Ce que Schaeffer dirait, je crois, c'est qu'il dirait, oui, c'est vrai, David, mais avant de me rendre là, je vais commencer par établir le fait qu'eux-mêmes croient dans la justice. Tu comprends? Donc, je vous ramène à la leçon de la semaine dernière. D'accord? Dans la leçon de la semaine dernière, ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que dans son approche, l'apôtre Paul prend une approche vraiment différente lorsqu'il va approcher l'homme qui est sans la Bible, puis l'homme qui connaît la Bible, lorsqu'il approche le juif, puis lorsqu'il approche le païen. Lorsqu'il approche le juif, il ne commence pas son raisonnement avec les Écritures. Systématiquement, il part avec des référents, il part dans le champ de la connaissance de cette personne-là. Donc, ce que Schaeffer, je crois, dirait ici, tout simplement, c'est qu'il dirait, oui, je veux lui montrer que cette notion-là de justice qu'il y a en lui origine ailleurs. Elle vient d'un être supérieur qui, lui, va juger justement. Mais peut-être que les détours que Schaeffer ferait, c'est qu'il dirait, premièrement, la justice, tu y crois. Premièrement. La preuve, c'est que tu juges tout le temps. Deuxièmement, tu es injuste. Dieu aurait simplement à présenter tous les jugements que tu as posés sur les êtres humains au cours de ta vie, puis te mesurer à la mesure dont tu as mesuré les gens, ce qui est tout à fait biblique, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus nous dit. On va être mesuré du jugement qu'on pose sur les gens. Donc, Dieu aurait simplement à faire ça pour démontrer que tu es injuste. Et puis là, peut-être que Schaeffer, s'il voulait aller dans la direction où tu t'en vas, dirait, puis là, le problème qu'on a, c'est que si je vais parler avec Suzy, elle va me dire que ça, c'est juste, ça, non, ça, c'est correct, ça, c'est mal, ça, c'est bien. Puis là, si je parle avec Caroline, ça va être une autre mesure de justice. Si je parle avec quelqu'un d'autre, ça va être une autre mesure de justice. En fait, probablement que si je parlais avec Hitler, il m'aurait dit qu'il était très, très juste. Probablement. Donc, où est-ce qu'on va trouver cette justice-là? Ce qu'on a pu établir, c'est que la notion de justice, on y croit. On est tous injustes, puisqu'on est tous incapables de vivre à la hauteur de notre propre morale. Donc, il va falloir qu'on ait à l'extérieur de nous. Et là, j'arrive là où tu es rendu. Il va falloir qu'on ait à l'extérieur de nous pour aller chercher une source de justice qui est objective et réelle. Est-ce que ça se pourrait que cette justice-là, on la trouve dans un être qui est fondamentalement juste? Celui qui est juste, qui n'est pas injuste, qui n'a pas péché, lui va pouvoir nous dicter la justice. Et donc là j'arrive à cet endroit-là où je dis, il va falloir que tu ailles chercher une source extérieure. Fait que je pense que l'approche va dans ce sens-là. C'est juste qu'avant de commencer en disant, c'est notre réflexe souvent comme chrétien, je ne dis pas que c'est le tien, je sais que tu fais beaucoup d'efforts d'évangélisation avec une approche apologétique, mais notre réflexe souvent, ça va être de dire, oui, mais attends un petit peu, là, je vais te montrer dans la Bible a dit que tous les hommes sont pécheurs. Oh, mais c'est quoi le péché? Dieu lui-même, regarde le mal dans le monde, Dieu. Si c'est ça, Dieu est pécheur aussi. Tu sais, fait que là, tu perds comme tous tes repères. Ouais, mais comment on va se rendre à ce verset-là? Tu sais? Faut qu'on ait un terrain d'entente commun ensemble. C'est quoi notre terrain d'entente? Puis donc ça, c'est, soit dit en passant, c'est important ce que je vais dire là. On est en train de faire de l'apologétique. D'accord? Dans l'apologétique, qu'est-ce que je fais? Je raisonne avec une personne pour défendre la foi. C'est ça, l'apologétique. L'apologétique ne convertit personne. C'est bien important là, ce que je dis là. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui convertit les gens à travers la vérité de l'Évangile. Donc, je ne suis pas en train de dire que si on devient des super argumentateurs, on va augmenter le nombre de conversions par 1000. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire, d'accord? Mais on est en train de dire, par exemple, que Paul avait une approche intelligente. Et donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup à gagner en me disant ils ont juste besoin que je leur cite des versets parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la job. Comprenez? Paul, ce n'était pas tout à fait ça son raisonnement. D'accord? Fait que c'est pas qu'on s'appuie sur les raisonnements, on s'appuie sur les Écritures, on s'appuie sur l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais on va rejoindre la personne là où elle est. Je sais que c'est ton approche aussi, David. Je m'excuse, je vais avancer, le temps file, puis on est juste à la page 2. On verra s'il y a d'autres questions sur la suite, d'accord? Présenter Dieu à l'homme sans la Bible. À nouveau, Schaeffer insiste pour dire que selon lui, il est impossible de présenter Dieu à l'homme sans la Bible, sans passer par cette question fondamentale du jugement universel qui attend tous les hommes. Donc, son expérience à lui, c'est que tu n'arriveras pas à compléter une présentation de l'Évangile sans éventuellement parler d'un Dieu juste, d'une justice divine, d'un jugement qui attend les hommes. Parce que tu n'arriveras pas à répondre à d'autres questions. D'accord? Encore une fois, il n'est pas en train de dire la première fois que tu parles avec quelqu'un dans le métro, il faut absolument que tu puisses couvrir tous ces points-là. C'est pas ça qu'on parle. D'accord? On dit, tout ce qu'il est en train de dire, c'est si je veux arriver à une présentation substantielle, solide de l'Évangile, je n'aurai pas le choix d'aborder ça. Parce que selon lui, les questions fondamentales de l'homme moderne dépendent de ça aussi. 4 questions fondamentales. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Il est comme en train de. On arrive vers la fin de son bouquin, il est en train de récapituler puis de mettre tout ça ensemble. 4 questions de l'homme moderne. Qu'est-ce que l'homme? C'est quoi l'être humain? Qui suis-je comme être? L'histoire a-t-elle une signification? Est-ce que l'histoire a un sens où on est juste des accidents? Puis, quelle que soit la direction, je veux dire, l'humanité disparaît, ça n'a pas plus d'importance que si l'humanité survivait. D'accord? Il n'y a pas de sens à vouloir sauver l'espèce. De toute façon, c'est à peu près l'espèce la plus destructrice pour la planète. Être aussi bien disparaître. D'accord? On s'en va là, je veux dire. Si vous n'avez pas entendu ce raisonnement-là, je peux vous présenter quelques personnes. D'accord? Ai-je moi-même une signification? Ou est-ce que je suis juste un ensemble, le fruit d'un ensemble d'accidents sans sens particulier? Il n'y a pas de sens particulier. D'accord? Une réponse solide à ces questions repose sur la notion de justice divine, de bien moral, de jugement divin. Et si nous démontrons de manière concluante, la vie de l'homme prend un sens définitif et riche. L'idée, tout simplement, c'est de dire tout prend un sens s'il y a un sens au-dessus de nous. S'il y a un être créateur qui a conçu les choses pour une raison particulière, dans un sens particulier et qui va juger si toutes choses ont été conformes à ça. Or, la seule façon de se défaire de la doctrine de la perdition de l'homme, parce que c'est difficile, il n'y a rien qui a du sens si Dieu ne juge rien. L'être humain fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas sur ça que nos sociétés sont construites. La seule manière de se défendre de la doctrine de la perdition de l'homme et du jugement divin consiste à rejeter l'une des deux vérités suivantes. Donc, si quelqu'un rejette une de ces deux vérités-là, ben, il n'y a plus de jugement divin. D'accord? Mais il y a des conséquences à ça. La première, c'est la sainteté absolue de Dieu. Puis la deuxième, c'est la signification de l'histoire et celle de l'homme dans l'histoire. L'histoire fait un sens et l'homme a un sens dans ça, une signification. La sainteté absolue de Dieu. En effet, si Dieu n'est pas absolument saint, il ne saurait y avoir de jugement divin sur les hommes. Okay? Si Dieu n'est pas saint, la morale est relative. Finalement, tu n'as pas à me juger, je n'ai pas à te juger, on ne juge personne. Chacun y va comme bon lui semble. Ça va? S'il n'y a pas une référence extérieure à nous, une référence absolue, il n'y a plus d'absolu. Et donc, chacun y va avec sa morale. Il n'y a plus de jugement. Maintenant, s'il n'y a plus de jugement, il y a beaucoup de conséquences à ça, parce que notre société et toutes nos sociétés qui fonctionnent sont fondées, là où on ne parle pas d'une dictature, mais sont fondées sur la notion de bien et de partage. Toutes nos sociétés sont fondées là-dessus. Il y a un bien, il y a une chose qui est bien ou mal à faire, et la notion de partage repose sur cette notion-là de bien. Autrement, il n'y en a pas. Il y a une grève étudiante. C'est quoi la grève étudiante? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est injuste ce qui est en train de se passer. C'est ça. Donc, il y a une notion de bien. D'accord? Le bien commun repose sur l'idée du bien. Donc, il y a quelque chose de mal. C'est lorsque une génération décide de s'accaparer tous les biens pour elle-même. C'est ça qu'a dit notre société? Ben non, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, pourquoi ce serait mal? Ils ont juste été plus vite et plus forts que vous. Prenez ce qui reste ou supplantez-les. Oui, François. OK, moi, c'est ça. Je comprends. Donc, ce que tu dis, c'est qu'ils trouvent qu'on est injuste. Oui, c'est ça. Maintenant, je n'ai jamais tenu un propos comme ça lorsque j'étais en train de parler avec une vraie personne devant moi. Sinon, une fois, parce que j'avais un jeune baveux qui faisait que j'étais le sujet de la risée, là, fait que je l'ai confronté. Mais j'ai juste voulu pouvoir apporter l'Évangile. Fait que là, j'ai été plus dur avec lui. Mais autrement, je n'ai jamais fait ça. Mais ce que je veux essayer de soulever, c'est la contradiction qu'il y a en humain. Oui. Absolument. Absolument. En tout cas, moi, tout ce que j'ai lu, il n'arrive pas à défaire cet argument-là. C'est parce qu'eux autres, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils... Non. Ben, ça dépend comment tu le présentes. Si tu le présentes avec amour ou non. OK? Parce que je dis, c'est sûr, il y a des gens qui, au nom de l'Évangile, font les affaires d'une manière qui n'est pas évangélique, tu sais. Ben, c'est leur problème. C'est leur problème devant Dieu. Puis Dieu va les juger pour ça. Si tu ne ressembles pas à Jésus quand tu prêches l'Évangile, tu ferais bien de la fermer. Mais les gens qui sont athées ont un système moral. Et lorsque je leur dis, tu n'as pas de fondement pour bâtir ton système moral, c'est offensant pour eux. Ça, je comprends. Mais lorsqu'eux autres me disent, regarde, c'est juste une idée que je suis en train d'apporter, Dieu n'existe pas. C'est offensant pour moi, ça. On peut-tu continuer à dialoguer? Fait que... Cette espèce d'affaire-là où je ne peux pas faire un dialogue parce que je déclare quelque chose qui t'offense. Mais tu ne comprends pas qu'en déclarant que je ne peux pas parler de Dieu, tu m'offenses. On peut-tu discuter ensemble? Donc, ça doit se faire avec respect, ça doit se faire avec amour, ça doit se faire avec douceur. Mais je persiste à croire qu'il n'y a pas de fondement. Dans une approche athée, il n'y a pas de fondement réel et objectif pour le bien commun. C'est un bien qui est relatif, c'est un bien qui est évolutif. C'est un bien qui va être réévalué avec chaque nouvelle génération. Viendra un jour où il y aura surpopulation, puis on trouvera une solution à ça pour le bien de l'ensemble. Puis ça sera une solution qui sera pas, qui respectera pas le caractère sacré de l'homme, parce que l'être humain n'est pas sacré. Tu sais. C'est un petit peu Louis-José Hood, je pense que j'en ai mentionné là, dans un de ses shows sur l'avortement. Est-ce que vous avez déjà écouté ça? Ça vaut vraiment la peine. Quelqu'un qui l'a vu? Il faut vraiment que vous attrapiez ça. Il commence en parlant d'avortement, en disant « Moi, je suis pour l'avortement. » Justement, ma blonde s'est faite avorter. Puis là, il raconte son histoire. Puis là, il nous raconte que finalement, il est de plus en plus mal à l'aise avec cette histoire-là. Puis ils sont allés jusqu'au bout. À la fin, il dit « Moi, je suis pour l'avortement. Mais plus jamais quand c'est mon enfant. » Fait qu'il est en train lui-même d'exposer qu'il vit un conflit intérieur, d'accord? Il fait ça avec un super beau doigté, là, vous comprenez? Il est pas... à la fin, il est en train de dire on a des méchants conflits intérieurs, les amis, là. C'est super bien fait. Oui, Danny. Oui. 100% d'accord avec toi, il faut faire ça avec... faut s'en remettre à Dieu. Puis ce que j'ajouterais à ça, c'est que... La relation avec la personne, c'est une personne que j'ai devant moi. Fait que je peux pas tenir tout le propos que je tiens en disant, regarde mon homme, si tu dis que l'être humain n'est pas sacré, tu es en train de dire que l'être humain n'a pas d'importance, donc on peut massacrer tout le monde. Puis si moi-même, par le ton, par l'attitude, par mon propos que je suis en train de donner, je suis en train de dire que lui, en tout cas, il n'est pas sacré, puis c'est un méchant cabochon, ben mon ton est en train de contredire tout mon propos, là, tu sais. Fait que... Fait que j'approche une personne humaine qui a des contradictions. Et mon objectif, c'est, avec amour, avec douceur, exposer le fait qu'elle a probablement des contradictions, puis que finalement, elle est peut-être plutôt dans le domaine d'un système de foi, comme moi. D'accord? Ça, c'est l'approche de Tim Keller. Tim Keller, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, à partir du moment où je peux avoir une conversation avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui n'est pas chrétien, puis que on peut simplement s'entendre sur le fait que cette personne-là, ce qu'elle affirme repose sur une croyance. Ce n'est pas scientifiquement démontré que la morale n'existe pas et que le bien absolu, la vérité, n'existe pas. Ce n'est pas vrai, ça. Puis elle-même ne croit pas tout à fait à ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il veut juste on s'entende, regarde, tu as un système de croyance, j'ai un système de croyance, puis là, on va ensemble discuter. Et déjà, si j'ai fait ça, j'ai fait un méchant au bon bout de chemin. Mais il en demeure pas moins, comme mentionnait Danny, que c'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Moi, ce que je veux illustrer avec l'approche de Schaeffer, parce que je trouve que des fois, on est très simpliste dans notre approche, c'est que Paul prend le temps de faire cette approche-là quand même. Paul prend le temps de comprendre les gens à qui il s'adresse et de les accompagner dans leur raisonnement. Donc, c'est une approche biblique de faire ça. Ce n'est pas parce que je sais que sans un miracle divin, leur cœur ne s'ouvrira pas, tout ça. Vous comprenez? Je ne vais pas refaire le speech, là. Mais, alors oui, j'approche avec les Écritures. Oui, j'approche sans les Écritures. Oui, j'approche avec douceur. Oui, j'approche dans la prière. Puis quand il y a quelque chose qui se passe, une conversion, waouh, c'est un miracle de Dieu. Mon temps est en train vraiment d'arriver à la fin. C'est là, je vais te laisser faire une petite intervention. Oui, oui.
Fait qu'il faut vraiment aller voir l'arrière de qu'est-ce qu'ils pensent. Moi, dans ma famille, maintenant, il y a deux beaux-frères qui sont des profs de philo de Puis ça fait des années que je parle avec eux, avec leur conviction. Mais je peux juste te dire que je prie beaucoup et que je crois que aussi notre témoignage avec des gens qui nous connaissent beaucoup.
Oui. Oui, c'est bon, super. C'est super important. Puis c'est ça que Schaeffer fait, c'est ça que Paul fait. Il faut que je rejoigne les gens là où ils sont. Quand Paul arrive à Athènes, il n'est pas méprisant. Il est respectueux de leur système de croyance. Mais il faut qu'on apprenne à faire ce raisonnement-là. Un des éléments que Schaeffer veut faire à travers ce livre-là, c'est de redonner confiance aux chrétiens dans le fait que l'Évangile est vraiment, vraiment une vision du monde super solide, super intelligente, logique. Il y a des éléments qui sont plus difficiles à argumenter, mais par exemple, la justice de Dieu en est un élément qui est difficile à argumenter, puis ça se fait. Ça se fait assez bien. Ça ne veut pas dire que la personne va être convaincue. Soit dit en passant, je vais terminer ma leçon dans deux semaines, d'accord? Parce qu'il me reste deux pages sont importantes. On devrait être bon pour faire terminer la prochaine leçon en même temps. Je fais une plug en terminant, parce que vendredi soir prochain, lorsque Christian Frappier va venir donner son témoignage pour Vendredi Saint, Christian vient d'un arrière-plan où son père est un prof de cégep, il n'y a aucun arrière-plan évangélique, il ne vient pas de ce milieu-là. Ce que lui aime à dire, vous allez m'entendre répéter ça un peu dans les annonces tantôt, là. Mais je vous encourage à penser à des personnes justement, comme des gens dans ta famille. Lui était pas, il se définirait pas comme quelqu'un qui était anti-Dieu. C'était pas un athée. C'était plutôt quelqu'un pour qui Dieu était comme une donnée sans importance. La vie va vite. Il y a de la souffrance réelle. Il faut gérer tout ça. Pourquoi rajouter Dieu dans l'équation? C'est compliqué. Donc, Dieu n'avait jamais fait partie de l'équation. Ce n'était pas une donnée qui était importante pour lui. Il était dans un milieu intellectuel, un milieu cultivé, un milieu artistique. Et il a toujours évolué dans ce milieu-là. D'accord? Donc, lorsqu'il a commencé à cheminer vers la foi, ça a été un cheminement très progressif qui était alimenté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Et un des beaux côtés de Christian, c'est qu'il a su, à travers les années, toujours rester en contact avec ce milieu-là. D'accord? Donc, c'est un musicien professionnel qui a joué dans des milieux professionnels. Il a vécu toute sa vie d'une carrière de musicien. Donc, il est resté dans ce milieu-là. Aujourd'hui, il dirige la louange puis est impliqué sur l'équipe pastorale à l'église Le Plateau, volontairement parce que c'est les gens à qui il aime annoncer l'Évangile. C'est les gens qui habitent là au Plateau Montréal. D'accord? Donc, c'est une belle occasion où vous n'avez vraiment pas à craindre, mais vraiment pas à craindre, qu'un de vos invités, instruit, brillant, ne se sente pas respecté par cet homme-là ou méprisé. D'accord? Il n'y aura pas un coup de poing comme je le fais des fois dans les cours en pleine face. D'accord? Pas avec Christian. Il est très, très respectueux puis il comprend d'où viennent les gens lorsqu'ils commencent à douter de leur propre système puis à s'ouvrir tranquillement à l'Évangile. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière puis on termine cette leçon-là dans deux semaines. Mais ça soulevait des bonnes questions ce matin. J'aime ça. Éternel, notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, après tous les raisonnements, toutes les discussions, Seigneur, ce qui demeure vraiment, c'est ta parole. Et même ces raisonnements-là, on les tire de tes saintes écritures, Seigneur. Mais voilà, on a à cœur, Seigneur, on a à cœur que tu viennes sauver à Longueuil, on a à cœur que tu viennes sauver dans nos familles, on a à cœur, Seigneur, d'ouvrir la bouche, de parler de l'Évangile, de parler de toi, Seigneur, de montrer, si c'était possible, de montrer, Seigneur, aux gens que ça se tient tout ça, puis en fond, c'est la vision du monde qui fait le plus de sens, Seigneur. Mais ce n'est pas de les convaincre intellectuellement qu'on veut, c'est que tu viennes, Seigneur, toucher leur cœur, que tu viennes leur dire combien tu les aimes et combien tu veux les accueillir, Seigneur, dans ta famille, dans ta maison. Tu veux prendre soin d'eux, tu veux être leur Dieu, Seigneur, tu veux être leur Père. Je te prie, Père, pour vendredi saint, pour vendredi prochain, mets sur notre cœur des gens, Seigneur, des gens qu'on aime, des gens qui pourraient accepter de venir à cette soirée et qui vont se sentir respectés par Christian. Et Seigneur, viens te servir puissamment de Christian pour toucher les cœurs. Simplement ouvrir une porte et peut-être, Seigneur, en convaincre quelques-uns de péché, de justice, de jugement, Seigneur. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci.